Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveau projet et Québec Science. Au programme, depuis nos excès littéraires, les mégadonnées de votre utérus. Bonne écoute.
Depuis nos exils littéraires, considérations sur les petits magazines, les positions de sécurité et la possibilité d'une révolution mentale. Un texte de Nicolas Langelier, paru dans l'édition Automne-hiver 2022 du magazine Nouveau projet. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend. Nous ne sommes même pas prêts pour ce qui a déjà commencé. Comment pourrions-nous l'être? Ce n'est pas dans les conférences qu'on apprend à faire le deuil d'un monde. Ce n'est pas dans les plans de mesures d'urgence qu'on explique comment négocier les changements de civilisation. Ce n'est pas un sac à dos rempli de barres tendres et d'allumettes qui nous sauvera. Ce n'est pas une maison, n'importe quelle maison, qui nous permettra d'échapper aux années à venir, à l'instabilité dans tout, aux écroulements, aux fractures. Ce ne sont pas les chroniqueurs ni tous les experts du monde qui nous souffleront les mots à dire à nos enfants pour les prévenir. Alors voici ce que nous faisons. Rien. Mais plein de choses aussi, bien sûr. Nous concevons des bébés et des soirées entre amis. Nous changeons d'emploi ou retournons aux études. Nous essayons la poterie et une nouvelle recette. Nous rions et nous pleurons et nous sweepons à gauche et à droite. Nous prenons soin de nos descendants et de nos ascendants et de notre boîte à fleurs. Nous votons pour une couleur ou pour une autre. Nous commandons de l'Indien et regardons la dernière série en vogue. Nous sommes des humains et c'est ce que font les humains à l'approche du premier quart du 21e siècle de l'ère commune. Un dîner avec un ami. Et sur la terrasse fleurie et inondée de soleil, nous discutons de crise climatique comme il se doit. Des aspects habituels dans l'ordre habituel, la gravité de la situation, l'inaction et l'hypocrisie de nos gouvernements, notre propre inaction et hypocrisie, la nécessité de faire quelque chose de radical très rapidement, mais quoi. Puis, je remonte la rue d'Orion vers le bureau et le monde est bleu et vert et parfaitement magnifique, comme il l'est toujours à la fin juin, avec cette ambiance permissionnaire qui donne des envies d'après-midi au parc ou d'apéro au bord de la Méditerranée ou d'un lac laurentien. Le cardinal chante dans le frêne qui a résisté à la grille. Les enfants du centre-sud crient dans les ruelles. Les triplex se découpent sur le ciel sans nuages, comme en 1919, comme en 1985. Mais ce ne sont que des apparences de stabilité, on le sait. Le monde est fragile, sujet aux perturbations et aux écroulements soudains, aux tables rases, aux incendies, à la suite desquels un monde différent prendra éventuellement racine dans les cendres et les souches noircies, et il est tout particulièrement fragile en ce moment. Il y a quelque chose qui semble bien futile dans la situation qui est la mienne en ce moment, assis devant un ordinateur à essayer de terminer ce texte et d'envoyer ce numéro à l'imprimeur, alors que je pourrais être en train de manifester ou de désobéir, ou juste de prémunir les miens contre un monde qui a déjà commencé à devenir très étrange. Et si l'on multiplie cette situation par 60, 70, 80, pour englober tous les gens qui auront aussi contribué à ce numéro 22 de nouveaux projets, il est légitime de se demander un tout petit peu, comme il m'arrive de temps à autre, pourquoi donc ces efforts sans répit, ces combats désespérés dans les dernières lueurs de ce qu'on a pu, pendant quelques siècles ou millénaires, qualifier de culture littéraire? Pourquoi ce texte à rédiger, ces magazines et ces livres à produire, et ces problèmes de trésorerie à régler et ces formulaires à remplir? À quoi bon cette activité furieuse et incessante alors que la planète s'en va chez le diable? Évidemment, la culture littéraire se mourait déjà bien avant que la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone ne dépasse les 400 parties par million. le son et l'image avaient supplanté l'écrit bien avant YouTube, bien avant que la première influenceuse n'ait publié une photo du galbe de ses fesses. Dès le début des années 1960, Marshall McLuhan annonçait la disparition du texte imprimé au profit de ce qu'il appelait notre interdépendance électronique. 30 ans plus tard, Régis Debray théorisait le passage de la graphosphère à la vidéosphère. Mais les deux premières décennies du 21e siècle auront été particulièrement dévastatrices. Sous les coups de bélier combinés de l'Internet, des grandes plateformes technologiques et d'une culture populaire toute puissante s'est écroulé l'édifice académico-médiatique qui maintenait en place un semblant de capital culturel pour la littérature. Peu importe les signes encourageants qu'on peut observer ça et là, les éditeurs de livres ont fait de bonnes affaires durant la pandémie. Une librairie indépendante a ouvert ses portes au coin de chez moi. L'an dernier, X nouveaux magazines ont été lancés. Il n'y a pas de doute, il ne s'agit là que de petites victoires sans conséquence sur l'issue d'une bataille perdue depuis longtemps. Les livres et les revues n'auront plus jamais le même impact. Les bibliothèques, celles dont la raison d'être est le livre et non ces centres de divertissement multimédia qu'elles sont pour la plupart devenues, ont été supplantées par des plateformes de diffusion de contenu et les vedettes populaires ont pris la place des intellectuels. Sur la table de chevet de Sébastien Diaz, nous informe la presse. Il n'y a plus de culture canonique et les sciences humaines ont vu leur prestige fondre comme un glacier italien. Mon magazine préféré, une institution ayant plus d'un demi-siècle, a été acheté par une compagnie de contenu numérique souhaitant en faire l'une de ses verticales. L'idée ici n'est pas de glorifier l'odeur de l'encre et l'opulence du papier, ni de se lamenter sur la fin d'une époque, avec regret et nostalgie, à la manière d'un chroniqueur du devoir désespérant de la fin de l'Occident blanc et chrétien. La culture littéraire est en voie de disparition. Les choses ne seront plus jamais les mêmes, et il n'y a rien que nous puissions y faire. Rien ne nous empêchera toutefois, comme individus, de continuer à chercher dans les textes le réconfort et la sustentation dont nous avons encore besoin. N'empêche, quelle société nous attend? Dans un monde où nous ne lirons plus grand-chose d'autre que nos échanges rapides avec nos proches et une version en diagonale de l'actualité? Je me faisais la réflexion en lisant le plus récent livre de Pierre Nepveu. Quel autre citoyen aurait émergé si, plutôt qu'à lire Baudelaire et parti pris, Nepveu avait passé son adolescence à jouer à Fortnite et à enfiler les vidéos sur TikTok? Difficile de poser ce genre de questions sans passer pour la victime d'une panique morale bien connue depuis au moins les années 1990, selon laquelle les gamers sont de futurs responsables de fusillades et les adeptes de messagerie instantanée seront sûrement incultes ou à tout le moins analphabètes. Vous écoutez, depuis nos exils littéraires, considérations sur les petits magazines, les positions de sécurité et la possibilité d'une révolution mentale. Un texte de Nicolas Langelier, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. « Oh, mais justement, dira inévitablement quelqu'un, si vous avez la mauvaise idée d'aborder le sujet en public, justement, c'est que le texte est loin d'être mort. » Cette personne fera référence à ces courriels que nous lisons et écrivons à longueur de journée, et souvent même la nuit, les heures diurnes s'avérant insuffisantes pour passer à travers nos boîtes de réception. Il y a tous ces mots sur Slack et sur Teams et sur Google Chat. Il y a tous ces textos. Le mot le dit. Par ailleurs, selon une idée reçue qui date d'une bonne vingtaine d'années, la mort des institutions littéraires et médiatiques serait largement compensée par l'émergence de milliards de voix individuelles portées par des outils communicationnels d'une formidable puissance. les gardiens du temple ont été renversés et le peuple ne s'est pas gêné pour se saisir du porte-voix. Réseaux sociaux, vidéos, balados, infolettres, notre époque ne cesse de trouver de nouveaux moyens pour nous permettre de nous exprimer. C'est une évidence, nous ne nous enfonçons pas dans un siècle de silence, mais peut-être que la plus grande différence entre nos formes d'expression contemporaine et celles qui dominaient jusqu'à récemment, c'est qu'elles sont dorénavant produites dans un contexte de conversation où priment les sujets qui appartenaient jadis au domaine privé. Les fonctions du corps et de la maison, les joies et les misères de la vie familiale, la préparation des aliments et leur absorption, la recherche de l'amour et de l'équilibre psychique. Le ressenti a remplacé le réfléchi. Hannah Arendt, analysant la séparation marquée que les Grecs anciens traçaient entre la sphère publique, polis, et la vie domestique, oikos, comme le yogourt, en venait à la conclusion qu'il est important de ne pas soumettre au regard des autres ces choses intimes qui soutiennent la vie. Elle serait sans doute perplexe en explorant nos médias dits sociaux. Peut-être que tout cela n'est pas grave, ou du moins pas important, dans le grand ordre des choses, un contexte de bouleversement sans précédent et de crise à répétition. Mais peut-être aussi que, oui, que quelque chose de précieux et de nécessaire est en train de se perdre ou s'est déjà perdu. Quelque chose qu'on tenait pour acquis et qui, comme toutes les choses tenues pour acquises, les amours, les amitiés, Arthurie Lekkonen, ne nous manquera qu'une fois qu'il sera trop tard. Si la lecture demande des efforts, écrire en demande encore plus, c'est sûr. 99% du processus d'écriture, a écrit justement Christin Dombeck, voire, pour cesser de se dérober à la vie, nouveau projet numéro 8, consiste à s'entraîner à échouer à longueur de journée et, à part peut-être pour la mort d'un être aimé ou la rupture d'avec l'âme sœur, c'est sans doute le plus profond sentiment de solitude que vous puissiez vous infliger. Depuis les premières expérimentations sumériennes avec la tablette d'argile, écrire a toujours été pénible et solitaire. Traduire en mots le flot tumultueux de nos pensées, lutter avec chaque phrase comme avec un crocodile pour reprendre l'image d'Annie Dillard, à moitié dévêtu, les mains nues, vous luttez avec la tête de la phrase pendant que sa queue essaie de vous renverser. Et faire tout ça de manière à la fois divertissante, pertinente, intelligente, c'est une dure façon de gagner sa vie. D'autant plus qu'en se transformant radicalement, le contexte socio-économico-culturel a rendu les métiers d'écrivain et de journaliste indépendants carrément hostiles à la subsistance, à part pour les auteurs de livres de recettes et ces quelques rares chanceux qui ont su faire une utilisation judicieuse de leur talent et de leur adéquation produit-marché. Ces corps de métier sont en voie de disparition, concluait il y a quelques années déjà l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Il y a 5 ans, le revenu annuel moyen tiré du travail d'écriture n'atteignait pas les 10 000 $, et ça ne s'est pas arrangé depuis. De toute évidence, la plupart des auteurs ne font pas qu'écrire dans la vie, et dans cette réalité se trouve le signe évident du problème. Il n'est plus possible, ici comme ailleurs, de gagner sa vie avec l'écriture. Oui, en théorie, vous pourriez très bien consacrer, bénévolement et de votre propre chef, 2 mois de travail à écrire cette entrée de blog de 7 000 mots, dans laquelle vous exposeriez avec nuance et détail votre position et vos recherches sur un sujet qui vous obsède, mais vous ne le ferez pas. Pas si vous n'êtes pas payé pour le faire, ou si, du moins, vous pouvez être diffusé sur une plateforme qui ne serait pas votre blog et qui vous donnerait accès à un lectorat plus large avec un impact plus important. Mais l'écriture, entendue ici comme celle des textes longs, fouillés, réfléchis, travaillés et retravaillés, est nécessaire Et cela peut être justement parce qu'elle est difficile. L'espace mental ainsi créé permet de contrecarrer un tant soit peu l'instantanéité des machines qui dirigent désormais nos vies et mène à ce que l'urbaniste et philosophe Paul Virilio a appelé l'échec du temps humain. Confronté à un temps machine, infiniment plus bref que la durée qu'il nous faut pour raisonner, nous sommes autrement condamnés à frapper un mur de confusion et de frustration et, finalement, de désengagement complet. Pour le futurologue américain Alex Stephen, le principal problème auquel nous faisons face avec la crise planétaire n'en est pas un de destruction, mais de discontinuité. Cette rupture avec le passé fait en sorte que les expertises et les expériences dont nous disposons actuellement ne seront d'aucune aide face aux difficiles décisions que nous devrons prendre. Tout semble encore comme avant. Plus rien n'est pareil, résume-t-il. La densification urbaine est une mode qui passera, déclarait récemment notre visionnaire ministre des Transports, la tête dans le sable, comme nous tous. Un choc nous attend quand nous prendrons vraiment conscience, individuellement et collectivement, de la précarité de notre situation, de ce que nous avons mis en branle. Position de sécurité, lancent les pilotes d'avion avant un impact probable. Il n'y a pas de pilote du genre parmi nos décideurs, ou si peu. Personne pour prendre le risque de jouer les Cassandres et de nous dire les vraies, vraies affaires, de forcer de nouveaux calculs de coûts et de bénéfices. Dans cette ère de brisure entre le passé et l'avenir, nous avons plus que jamais besoin que des hommes et des femmes réfléchissent à ce monde nouveau et en tirent des écrits qui pourront nourrir, modifier, faire évoluer notre propre réflexion. Ainsi, peut-être, pourrons-nous mieux assimiler les bouleversements à venir et disséminer les nouvelles expertises et les expériences susceptibles de nous guider dans la tempête. Vous écoutez, depuis nos exils littéraires, considérations sur les petits magazines, les positions de sécurité et la possibilité d'une révolution mentale. Un texte de Nicolas Langelier paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. L'art en général, et la littérature en particulier, est une forme de contemplation, un espace où peuvent surgir les clés de compréhension, les motifs, le sens de la durée, le sens, point. Par-delà les ruptures, le texte peut être un fil reliant l'avant et l'après, la cause et l'effet, la réflexion et l'action, nos pensées et celles des autres. Je ne prône pas ici un intellectualisme déconnecté de la réalité, une vie d'abstraction et de seule contemplation. Si les textes riches en idées et en pistes de solutions sont nécessaires, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils permettent ce passage à l'action dont nous aurons plus que jamais besoin. Dans « Raison commune », Fernand Dumont rappelle que le changement, bien avant l'action politique, surgit surtout de la circulation des idées et de la transformation sociale qui en découle. La Révolution tranquille n'est pas née avec l'arrivée au pouvoir de Jean le Sage, raconte-t-il, mais durant la décennie et demie qui l'a précédée. Citation. De 1945 à 1960, des changements ont été amorcés bien avant qu'interviennent les transformations des structures politiques. La plupart des grands projets mis en route dans les années 1960 ont été imaginés au cours de cette période et par des intellectuels plutôt que par des hommes politiques. De plus, la mutation s'est avant tout produite dans les mœurs pour se poursuivre au grand jour après 1960, et avec beaucoup plus de répercussions que dans la sphère politique. Fin de citation. En somme, écrit Dumont, c'est d'abord une révolution mentale qui est survenue, et pour y arriver, il a fallu que des individus créent un espace de réflexion, d'imagination, quitte à se couper du monde pendant un temps. Le travail de l'exil littéraire ou scientifique est la garantie nécessaire de l'engagement, conclut-il. Au commencement était le verbe, et le substantif et un bon paquet d'adjectifs. Dans la genèse de ce magazine qui célèbre ses 10 ans, il y a l'amour des phrases bien faites, des histoires pour lesquelles il y a un avant et un après, des textes qui transforment ou qui au moins essaient de le faire, ce qui est déjà énorme. Il y a l'envie de laisser aux meilleurs auteurs, aux meilleures autrices du Canada francophone, connues ou pas encore, tout l'espace dont ils et elles ont besoin pour raconter leur monde et celui auquel ils et elles rêvent, pour explorer des formes nouvelles ou au contraire pour peaufiner celles qui leur sont habituelles, pour aller au bout de leurs questions, combats, obsessions. Apprenez à connaître votre os, conseille Taureau à un correspondant. Rongez-le, enterrez-le, déterrez-le et rongez-le encore. L'envie de laisser de la place aussi à de grands textes du passé. Question de nous tirer vers le haut et de combattre le cercle vicieux de l'instantanéité. C'est ainsi qu'au fil des ans, nous avons publié Schopenhauer, Rosa Luxembourg, Joan Didion, Sénèque, Lucky Bercianic et bien d'autres, et que dans le présent numéro, nous reproduisons 8 000 mots du grand John McPhee. Un samedi après-midi de l'hiver dernier, alors que le bébé faisait la sieste avec sa mère, je suis allé marcher dans la forêt et, au milieu du silence ouaté installé par une récente tempête de neige, il m'est venu ce désir subit de ramener nouveaux projets vers son essence, les phrases, les récits personnels mais universels, les textes longs qui, autant que possible, changent des vies. D'autant plus qu'arrivait aussi notre nouveau site web qui allait être parfait pour diffuser toutes sortes de formats courts et de textes écrits à chaud. Vous tenez donc, entre vos mains, le résultat préliminaire de cette envie de revoir un peu les choses après une décennie. À partir de cette édition, et encore davantage avec le temps, alors que seront commandés les textes qui constitueront les futurs numéros, le nombre de textes est considérablement réduit, mais le nombre de pages totales reste le même. C'est donc dire que chaque auteur et autrice a beaucoup d'espace pour dire les choses qui doivent être dites, élaborées, discutées. Des correspondances, un reportage, un essai, une entrevue, un portrait, des commentaires, une fiction, un poème, c'est essentiellement ce que Nouveau Projet présentera dans chaque numéro. Une 12aine de textes et beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et de ressources sur chacun. C'était « Depuis nos exils littéraires ». Considérations sur les petits magazines, les positions de sécurité et la possibilité d'une révolution mentale. Un texte de Nicolas Langelier, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet.
Les mégadonnées de votre utérus, un texte de Gabriel Anctil, paru le 1er septembre 2022 dans le magazine Québec Science. Pour protéger sa vie privée, doit-on supprimer son application de suivi menstruel? Avec l'accroissement des applications de suivi menstruel, les données sur les règles sont de plus en plus abondantes. Et c'est tant mieux. Un tel suivi aide à garder un œil sur sa santé globale. Mais ces données ne sont pas toujours utilisées à bon escient. Si vous suivez vos cycles menstruels grâce à une appli, cessez de vous en servir et détruisez vos données maintenant, enjoignait sur Twitter l'avocate américaine Elizabeth C. McLaughlin, au lendemain de la fuite d'un document révélant le renversement prochain du jugement protégeant le droit à l'avortement aux États-Unis. L'effet potentiellement pervers de la collecte massive de ce type de données sur les droits sexuels, comme celui à l'avortement, inquiète les experts depuis de nombreuses années. Avec l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, la crainte que ces données puissent être employées dans des poursuites judiciaires continue de défrayer la chronique. Malgré l'anonymat qu'est censé offrir le grand volume de données, de multiples études ont prouvé qu'il est facile de combiner les sources pour retrouver à qui les données appartiennent. La solution est-elle réellement de supprimer son application de suivi menstruel? Dire aux gens de ne pas utiliser ces plateformes puissantes s'ils ne veulent pas être surveillés déraisonnablement équivaut à blâmer la victime, écrivait la chroniqueuse Zeynep Toufeksi dans le New York Times. Selon l'informaticienne, il est plus que temps que les pays légifèrent pour protéger les utilisateurs en imposant aux entreprises des mesures strictes de chiffrement des données. Au Québec, la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels doit entrer en vigueur cet automne. Elle encadrera la collecte de données par les entreprises opérant dans la province. Mais si c'est de l'État qu'on souhaite se protéger, pour le moment, c'est à nous de connaître et de choisir les outils qui respectent la vie privée. Pour le suivi menstruel, les applications Drip, Yuki et Periodical reçoivent l'aval des experts. Il faudra beaucoup plus pour assurer aux internautes un respect de leur vie privée sur le web. Leur santé en dépend. C'était Les mégadonnées de votre utérus, un texte de Gabriel Anctil, paru le 1er septembre 2022 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.